Bonjour et bienvenue sur Escapade en Garrigue, l'émission du collectif des Garrigues sur Radio Escapade. Alors aujourd'hui, on va parler de pastoralisme, un sujet qui est cher à toute personne qui s'intéresse à nos Garrigues, tant l'histoire des Garrigues est liée à l'histoire des moutons. Alors pour nous parler de ce sujet, on est aujourd'hui avec Gérard Jossium. Bonjour Gérard.
Bonjour.
Alors Gérard, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu t'es intéressé, arrivé à t'intéresser à ce sujet du pastoralisme et à ce sujet des Garrigues ?
Oui, donc effectivement, je pense que dans un premier temps, je me suis intéressé à ce genre d'élevage extensif professionnellement, c'est-à-dire que j'ai une formation donc de vétérinaire, j'ai pratiqué pas mal en milieu rural et j'ai surtout eu l'occasion de voyager dans des endroits un petit peu lointains comme la Mongolie, comme le Sahel, le Nord Mali, le Sud algérien, où là j'ai pu travailler avec des nomades. Et donc j'ai toujours été fasciné par cet aspect de l'élevage extensif et surtout de la culture qui correspondait pour les éleveurs à ce type d'élevage, leur grande connaissance du milieu, des animaux. Le fait de savoir toujours se débrouiller tout seul dans n'importe quelle circonstance, parce que dans ces zones extensives, extrêmes, il n'y a pas un vétérinaire ou un technicien à chaque coin de piste. Donc voilà, c'est toute une sagesse, toute une connaissance que j'ai retrouvée d'une certaine manière quand j'ai débarqué dans le Gard, où j'ai découvert donc cette garrigue qui était vraiment un territoire tout à fait particulier. Et là, j'ai retrouvé cette culture où les hommes et la garrigue sont étroitement liés et où l'un marque l'autre de manière historique.
D'accord. Donc, tu as pratiqué ton métier de vétérinaire dans cette région des Garrigues ?
Alors oui, j'étais installé à Quissac et donc on peut considérer, vu la proximité du massif de Kouta, vu la proximité du bois des Lins dont vous a parlé mon camarade Bono là, il y a 15 jours dans la dernière émission. J'étais vraiment, si on regarde aussi la région proche de l'Hérault, vers Saint-Mathieu-de-Trévies et tout ça, Pic-Saint-Loup, on est vraiment dans des zones de garrigues caractéristiques, quoi. Mmh. Avec, effectivement, toujours un élevage extensif, mais malheureusement, qui se réduit de plus en plus avec le temps. Et donc, c'est un peu le sujet donc, de notre discussion d'aujourd'hui avec Manu.
Donc du coup, tu as commencé à creuser cette question du pastoralisme. Donc tu disais d'abord à l'étranger, puis ici, comment ça s'est fait ? Tu as rencontré un petit peu des éleveurs locaux ? Comment tu as un peu creusé cette question ?
Sur un plan professionnel, j'ai tout de suite accepté effectivement les demandes qui venaient de l'extérieur de mon cabinet. Donc j'ai découvert en particulier l'élevage des vaches de race Camargue, les élevages de chevaux de même origine, camarguaises aussi, les brebis, les chèvres, et puis les chevaux de race autres que les chevaux de race Camargue. Donc effectivement, il reste quand même encore toute une population animale qui vit localement dans ces milieux un petit peu, disons, difficiles.
D'accord. Donc effectivement, tu fais aujourd'hui un peu ce pont entre cette expérience plutôt à l'étranger et cette expérience locale dans des conditions un peu particulières de ces éleveurs. Et on a bien parlé du côté nomade, car effectivement, quand on parle de pastoralisme en garrigue, on pense aussi à ce côté nomade. Est-ce que tu peux justement nous dire quelques mots sur ce côté du pastoralisme transhumant ?
Bah, disons qu'on pourrait dire finalement que en faisant un raccourci, que le nomade des Garrigues, c'est le berger. C'est le berger qui continue, même dans les années actuelles, 2015, qui continue à faire sa transhumance vers les Cévennes, qui revient dans la plaine en hiver, etc. Donc il y a un côté comme ça, un côté nomade, effectivement, qui historiquement, d'ailleurs, a posé le même type de problème que ce qui s'est constaté, par exemple, au Sahel, comme je disais tout à l'heure, entre les nomades et les agriculteurs, c'est-à-dire c'est un problème un petit peu éternel, c'est que effectivement le nomade est quand même un peu parfois le mal-aimé de la société rurale, c'est-à-dire que il y a effectivement, si on regarde l'histoire des Garrigues, comme elle est racontée par exemple par Clément Martin dans son livre sur la Garrigue, effectivement il y a eu historiquement des heurts de plus ou moins grave entre éleveurs, bergers et agriculteurs sédentaires. Parce que parfois, le berger a peut-être un petit peu de peine à se soumettre aux réglementations. Donc, effectivement, peut-être que parfois, les moutons ou les chèvres avaient tendance un peu à aller brouter sur les zones cultivées. Donc voilà, il y a une espèce y a des tas d'éléments comme cela qui se retrouvent finalement de manière assez universelle, quoi. Et c'est un aspect qui m'intéresse beaucoup, quoi.
D'accord. Mais aussi, comme tu disais tout à l'heure, cette connaissance très intime que peut avoir l'éleveur, le berger, avec le milieu, du fait justement de cette conduite du troupeau sur un parcours, avec une connaissance très précise du milieu naturel, de la géographie locale et du comportement des animaux.
Voilà, c'est une véritable science, une science qui s'est passée comme ça de bouche à oreille. C'est pas une science universitaire. C'est une connaissance extrêmement profonde du milieu qui fait que, par exemple, dans un cas que j'ai suivi d'assez près, où on a fait venir un troupeau de 300 chèvres du Rove dans la région de Sommières, elles sont actuellement sur Clarensac. On s'aperçoit que 300 chèvres, effectivement, les chèvres ont assez mauvaise réputation pour ce qui concerne leur pâturage en garrigue, parce qu'on a toujours peur qu'elles détruisent tout. Et effectivement, elles sont capables de détruire. Mais c'est là qu'intervient toute la science du berger, c'est-à-dire que moi j'ai pu observer sur ce troupeau de 300 chèvres que si le berger a des connaissances suffisantes, il arrive à trouver un équilibre avec son troupeau entre un surpâturage qui serait peut-être un peu gênant et un pâturage insuffisant qui ferait qu'effectivement l'effet sur la garrigue serait pas forcément favorable. Donc il y a toute une connaissance qui fait que je laisse mon troupeau un temps limité que j'établis moi-même sur telle zone et ensuite je le pousse pour aller un petit peu plus loin. Et le résultat, effectivement, il va être extrêmement dépendant de la technique que j'aurai, une technique ancestrale que j'aurai mise en place.
D'accord.
Donc c'est extrêmement subtil en fait, hein. C'est toute une connaissance des plantes. De leur pousse, des endroits où il faut pas aller, des endroits où il faut rester, etc., etc. Des endroits où il faut boire, trouver de l'eau, voilà.
Alors, on va s'écouter une petite musique et on va revenir sur le pastoralisme en garrigue dans un instant.
Eu sou doce como mel, Pôncio Pilatos lavou a mão. Eu sou muito antes de Tutancâmon. Eu sou doce como mel, Pôncio Pilatos lavou a mão. Eu sou muito antes de Tutancâmon, Alaurum. Eu sou de Oxóssi-Pó. Alauru, Kiki, Oiagomojo, Paulo do Maré. Alauru, Kiki,
segura a brasa com a mão. Grécia não era Grécia, nem Japão era Japão. Xangô, rei de Ioiô, segura a brasa com a mão. Ai, a Grécia não era Grécia, nem Japão era Japão. Namíbia, Nigéria, Moçambique, ah, não tem naná. Em Nova Guiné, Alaouru, Kinki, eu sou de Oxogbo, Alaouru.
Nous sommes donc sur Escapade en Garrigue avec Gérard Jossium pour parler du pastoralisme sur nos espaces de garrigue. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, le pastoralisme, c'est toute une histoire, c'est une tradition. Et on le voit, c'est intimement lié à nos paysages de garrigue, ou plutôt nos paysages de garrigue sont intimement liés à cette histoire du pastoralisme. Alors, peut-être serait-il intéressant, Gérard, de revenir un peu dans le temps pour que tu nous racontes un petit peu comment est arrivé le pastoralisme ici et en quoi ça a modifié nos paysages.
Oui, il faut plutôt, si on veut faire un retour dans l'histoire, il faut voir l'exploitation de la garrigue par l'homme, parce qu'effectivement, je répète ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que la garrigue, c'est vraiment un espace qui a été façonné par l'homme, on considère sur à peu près 7000 ans. C'est-à-dire que le paysage de garrigue n'était pas un paysage naturel, mais il était un paysage construit, exploité par l'homme, et pour l'homme. Puisque, effectivement, les gens vivaient sur la garrigue, dans la garrigue, avec ce qu'ils arrivaient à tirer de cet espace. Mais surtout, ce que je voudrais souligner, c'est qu'en fait, il s'agissait d'un système. C'est-à-dire que le pastoralisme n'était qu'un élément du système dont je parle. C'est-à-dire que on met en avant le fait qu'il y avait trois éléments dans la garrigue. Il y avait le bois, le parcours et les terres cultivées.
D'accord.
Donc, ces trois éléments-là se combinaient avec des dominantes dans certains endroits, des dominantes différentes dans d'autres endroits. Mais en gros, c'était les trois éléments qui structuraient l'exploitation de la garrigue.
Donc, le bois où on produisait, justement,
alors,
on allait couper...
Le bois où on produisait le bois, mais on utilisait aussi les brindilles, les déchets, l'écorce dont on tirait le tanin...
les fagots.
On faisait tout ce dont on vous a parlé la dernière fois, c'est-à-dire les fours à chaud, la production de charbon de bois, tout ça était basé, bien sûr, sur l'exploitation du bois de chêne.
D'accord.
Bon. Le parcours, donc, c'était des moutons, enfin des brebis, des moutons, des chèvres. Quelques ânes sans doute, des bovins, je pense pas qu'il y en ait eu beaucoup, mais ceci dit, on commence à en voir un petit peu dans les expériences qui sont tentées actuellement. Donc, en gros, c'était un petit peu l'aspect parcours. Et puis, donc, ça fournissait effectivement du lait, de la viande, des peaux.
De la laine,
effectivement. Tout ça était exploité par les populations. Et donc, il reste les terres cultivées qui étaient quand même relativement minimes. Hein. Et effectivement, on s'aperçoit que les familles, parce que souvent, les familles vivaient pratiquement dans la garrigue, on s'aperçoit que les cultures étaient quand même relativement rudimentaires. Et même, on peut se poser des questions sur ce que ça pouvait produire, vu la taille des parcelles, quoi, dans certains endroits. Mais enfin, je pense qu'on peut reduiser un peu de céréales, un petit peu d'olives, orge, ouais, quelques légumineuses. Voilà, donc c'est en ce sens-là que je dis que c'était un système, parce qu'on utilisait le fumier des animaux pour fertiliser le peu de terre qu'on avait. On utilisait le bois pour faire des productions annexes. Donc, il y avait toute une logique de fonctionnement qui permettait à ces familles de vivre très difficilement, mais quand même, qui vivaient localement.
C'est ce qu'on appelle le système agro-silvo-pastoral.
C'est ce qu'on appelle le système agro-silvo-pastoral, exactement.
D'accord.
Alors, ce système, il a été, et ça, les écologistes de Lozère l'ont très très bien montré dans leur exposition itinérante, ce système d'exploitation par l'homme a été jusqu'à des limites dangereuses vers le XVIIe, XVIIIe siècle, où on était dans des conditions de surpâturage, de surexploitation. Et à cette occasion-là, ils avaient produit des images, des illustrations où les collines étaient pratiquement à nu, quoi. Donc, on est passé par une étape du XVIIIe siècle où vraiment on était en surexploitation des garrigues.
Effectivement, on a vu dans le cours de l'histoire que ce système-là était mouvant. C'est-à-dire qu'il y a eu des époques où il y avait plus de bois, parce que souvent, c'était aussi des époques où la population baissait et donc le bois reprenait. Wow. C'est l'époque comme à la fin du Moyen-Âge, où il y a eu le petit âge glaciaire, par exemple, où ça a été une époque plutôt de reconquête de la forêt. Et au contraire, comme tu le disais, 17e, 18e siècle, une population qui explose et qui, du coup, va grignoter tous ces espaces de bois pour justement les moutons et les cultures, et qui du coup va faire une surexploitation. On voit que ça a bougé tout au cours des siècles.
Oui, il y a eu une dynamique extrêmement nette en fonction des conditions de l'époque, quoi. Et ensuite, pour aller vite, on va dire qu'à la fin du 19e siècle, début du 20e, la garrigue a commencé à être un petit peu moins exploitée. Et pour arriver au milieu du 20e, après l'explosion de la production viticole, monoculture de la vigne, où là, pratiquement, il n'y avait presque plus personne, sauf chasseurs, promeneurs.
Donc on peut se dire que le système agro-silvopastoral, malgré des hauts et des bas dans le temps, a quand même duré pendant plusieurs milliers d'années et a structuré vraiment l'organisation de ces espaces de garrigue.
Absolument.
Souvent, je cite une petite anecdote. C'est vrai que souvent, on se dit, mais tiens, quelle est la différence, une des différences profondes quand on va se promener dans les territoires à vaches, comme on dit, hein, dans le Massif central ou en Bretagne, et nos garrigues. Souvent, quelque chose qu'on voit dans le paysage, c'est l'absence de clôture évidente. Et ça, on voit finalement que c'est lié à ces fameux parcours, ces fameuses zones de troupeaux qui... aller d'un espace à un autre, ces fameux nomades, parce que ce que on peut peut-être expliquer en quelques mots, c'est que il y avait effectivement ce système agro-silvo-pastoral qui était très lié entre ces différentes activités, mais il y avait aussi un système entre garrigues et Cévennes, et du coup avec du pastoralisme qui migrait aussi chaque deux fois par an, hein, pour monter et redescendre.
Bien sûr, mais ça n'est pas totalement différent des grands mouvements des populations nomades, comme je parlais tout à l'heure en Mongolie par exemple, où les troupeaux suivent les variations de ressources. C'est parce qu'en fait, il s'agit, dans ce que tu viens de dire, il s'agit uniquement de l'insuffisance de la ressource au niveau de la garrigue sur toute une année. C'est-à-dire que la garrigue est capable de nourrir des troupeaux une partie de l'année, mais elle est absolument incapable de nourrir des troupeaux toute l'année. Il n'y a pas assez, la ressource est insuffisante pour prévoir ça. Donc c'est pour ça que quand on pense, comme on le fait par exemple au sein du collectif des garrigues, à comment on pourrait essayer de relancer un certain retour du pastoralisme dans ces garrigues à l'abandon, qui sont en train de se fermer, il faut prévoir de la même manière un système, c'est-à-dire comment on fait pour compléter l'insuffisance de ressources locales.
Et c'est un
problème qui peut se résoudre, mais qui n'est pas simple quand même à résoudre.
Mais c'est effectivement cette transhumance, donc c'est ce départ en estive, comme on dit, qui partait sur les montagnes, Montégoal, Mont-Lozère, les Grands Causses, etc., donc, qui fait aussi ce lien assez particulier entre les garrigues et ces montagnes méditerranéennes. Et donc, les éleveurs et les bergers avaient une connaissance, justement, de ces deux espaces-là, y vivant la moitié de l'année.
Absolument. Alors... Et je voudrais préciser qu'il existe une contre-transhumance, c'est-à-dire qu'il existe des troupeaux bovins qui descendent des zones plus au nord, Massif central et le bas des Alpes, pour venir une partie de l'année en garrigue avec leurs vaches, leurs troupeaux de vaches.
Plutôt en hiver, du coup.
C'est-à-dire plutôt en hiver, c'est-à-dire qu'on est dans une contre-transhumance, en fait. Mais l'aspect important de la région, c'est effectivement le lien avec les sommets, enfin les pâturages des sommets de Cévennes, où là, effectivement, la tradition est quand même encore assez vivace, quoi. Et c'est extrêmement intéressant.
Alors, on va s'écouter une petite musique et on va revenir un peu sur les explications de l'effondrement du pastoralisme dans nos garrigues.
Well, it's been a long time, long time since I've seen you smile, and I'll gamble away my fright, and I'll gamble away my time, and in a year or a year or so, and so I see
It's been a long time, long time.
Aujourd'hui sur Escapade en Garrigue, nous sommes avec Gérard Jossium pour parler du pastoralisme dans nos espaces de garrigue. Alors Gérard, on a vu à l'instant un peu toute l'histoire, l'importance du pastoralisme au cours des 7000 dernières années qui a formé cet espace, ces paysages. Pourtant, en quasiment un siècle et demi à peine, tout ce système dont tu nous parlais, ce système agro-silvo-pastoral des garrigues, s'est démantelé, s'est effondré. Est-ce que tu peux nous raconter un peu les grandes étapes de cet effondrement pastoral ?
Je ne suis pas historien, mais enfin, je pense qu'à la base, les conditions de vie, il faut bien voir que les conditions de vie dans ces garrigues étaient quand même extrêmement rudes et difficiles. Il arrivait que, par exemple, des familles d'Italiens qui étaient venus, qui avaient émigré pour justement pratiquer la production du charbon de bois, il arrivait qu'elles vivent sur place, dans le massif des Lens, par exemple, dans des cabanes en pierre très très rustiques. Les enfants, la femme, tout le monde vivait là-haut et descendait très 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 peu au village. Donc c'était quand même des conditions extrêmement difficiles. Donc on va dire que pour faire vite, que la société a évolué tout autour. La vie est devenue quand même un petit peu plus facile, même dans les campagnes. Et ce qui se passait là-haut n'était plus supportable. Donc déjà, les gens ont eu tendance un petit peu à redescendre, à revenir dans les bourgs, dans les villages. Et c'est à ce moment-là, effectivement, qu'il y a eu l'élevage s'est très 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 bien porté à cette époque intermédiaire. Il était assez fréquent que dans chaque village, il y ait 4 ou 5 troupeaux de brebis dans les masses. Donc ça, c'était avant la spécialisation vers le vin, vers la viticulture. Mais les anciens des villages parlent souvent de ces fameux troupeaux qui circulaient toute l'année dans les villages et qui produisaient une certaine animation intéressante. Donc déjà, il y a eu les conditions de vie qui étaient quand même très rudes. Il y a le fait que effectivement l'agriculture des plaines s'est développée et en particulier donc effectivement a évolué de plus en plus vers une spécialisation et vers la production de vin et donc la culture de la vigne.
Dès la seconde moitié du 19e siècle, il y a cette spécialisation sur la viticulture qui a été particulièrement forte.
Voilà, c'est ça. Donc effectivement, il y a eu un mouvement de reflux et je pense que les populations ont regagné petit à petit, tout doucement, les zones plus fertiles et où il était quand même plus facile de vivre. D'autant plus que on peut parler d'un boom agricole par le biais de la production de vin qui a été dans un premier temps extrêmement favorable. Voilà. Alors effectivement, on peut dire que dans la mesure où Les conditions très très favorables de cette production viticole diminuent un petit peu à cause de la concurrence mondiale. Effectivement, on recommence à se poser, on peut être légitime à se poser des questions sur l'avenir de la garrigue. Mmh. Qu'est-ce qu'elle devient cette garrigue qu'on a abandonnée, qu'on a laissée se fermer sur 100 ans, quoi, on va dire, ou 150 ans. Et effectivement, donc là, il y a légitimité à se poser une question de dire, eh ben pourquoi pas essayer de la réinvestir, bon, évidemment, d'une manière beaucoup plus modeste, peut-être, par des petites expériences ici et là, mais essayer quand même de lutter contre cette fermeture qui est absolument une catastrophe, surtout par rapport à ce qu'on vous a dit déjà sur la biodiversité, qui diminue avec la fermeture.
Alors, du coup, si on revient, on a, à la fin du 19e siècle, dès la deuxième, seconde moitié du 19e siècle, une viticulture qui prend le pas, vraiment, sur le système agro-silvopastoral. Puis aussi, il faut le dire, quand même, au début du 20e siècle, l'arrivée des engrais chimiques qui, du coup, a remplacé une des utilités du troupeau qui était d'amener du fumier dans les zones agricoles, donc un pas de plus. Et puis des étapes aussi plus récentes, mais néanmoins qui ont donné le coup de grâce, qui est plutôt les effets de la mondialisation. Et du coup, le coût de revient et de pour produire de l'agneau de Nouvelle-Zélande était très fortement inférieur à celui de l'agneau des Garrigues, qui a vraiment donné cet arrêt quasiment complet au pastoralisme en Garrigue. Néanmoins,
alors,
certains
ont... Je ferai une petite nuance, parce que tu dis le coût de l'agneau de Nouvelle-Zélande, et moi je parlais du goût de l'agneau des Cévennes. C'est-à-dire qu'effectivement, là, il y a eu le coût contre le goût. Il se peut que les choses changent un jour. C'est pas quelque chose de perdu. Je pense que la qualité de l'agneau local est excellente et très vraiment une qualité extraordinaire. D'ailleurs, il a été envisagé à une époque, je ne sais pas où ça en est, de créer une AOC agneau des Cévennes. Je ne sais pas si ça a été fait ou pas, je ne pense pas. Mais c'était une très bonne idée. Et avec l'émergence des circuits courts, il n'est pas dit qu'effectivement, il n'y ait pas une certaine actualité pour ce fameux élevage d'agneaux.
Néanmoins, effectivement, on va le voir dans un instant, un peu ces prémices d'un retour. Néanmoins, en 100 ans à peu près, un paysage de garrigue qui était parcouru par de très nombreux troupeaux, comme tu disais, 4 à 5 troupeaux par commune. Il y avait plus de moutons que d'habitants dans le département du Gard à la fin du 19e siècle. Aujourd'hui, des troupeaux en garrigue, on n'en voit pas à tous les coins de rue. Donc un effondrement très très important et du coup une conséquence sur le milieu qui, comme on le répète souvent dans cette émission, on le voit se refermer, se réembroussailler. Alors parfois c'est effectivement intéressant par rapport aux extrêmes de surpâturage qu'ont pu connaître les garrigues il y a une paire de siècles. Néanmoins, amène aussi de nouvelles problématiques, des problématiques de maintien de certaines espèces patrimoniales des garrigues, mais aussi des problématiques au niveau de la gestion du risque incendie aussi.
Bien sûr,
une vraie problématique très
importante. Problème fondamental, c'est sûr.
Et donc on arrive en ce début du 21e siècle avec l'ensemble de ces problématiques-là, et puis des gens qui sont motivés pour réfléchir à la suite. Alors, on s'écoute une dernière petite musique et puis on va parler justement des garrigues au XXIe siècle.
Say I'm ready. waves wash over me. If it's love flowing freely, I'm ready, I'm ready. If the waters can redeem me, I'm ready, I'm ready. I'm ready to let the rivers wash over me. I'm ready to let the rivers wash over me.
Alors Gérard, ce pastoralisme en garrigue, on l'a vu, s'est effondré complètement depuis la fin du 19e siècle et tout au long du 20e siècle. Aujourd'hui se pose la question de l'avenir des garrigues. Avenir des garrigues, par rapport à cette végétation qui reprend, par rapport au risque incendie, par rapport à des problématiques de biodiversité. Et souvent on revient sur, et est-ce que le pastoralisme aurait une place encore de nos jours, ou une nouvelle place peut-être à construire. Des gens s'y intéressent. Est-ce que tu peux justement nous raconter un peu ces prémices d'un renouveau pastoral des garrigues?
Ouais, je ne sais pas par où il est intéressant de commencer la réflexion, mais je pense que on pourrait commencer par les atouts. Les atouts de cet élevage, c'est la qualité, c'est-à-dire que tout à l'heure, j'ai parlé de la viande d'agneau. On pourrait parler de la viande du chevreau de Rove. On pourrait parler du pélardon. On pourrait parler de... Voilà, il y a des qualités, il y a des choses qui sont des atouts, hein, dans la discussion, et sur lesquels on peut s'appuyer. J'ai oublié aussi une expérience que je connais où on élève du cochon gascon croisé sous les chênes, et donc production de charcuterie d'excellente qualité, etc. Donc il y a des atouts dans la garrigue pour l'élevage. Je connais aussi des expériences, une expérience en tout cas, de combinaison, c'est-à-dire un agriculteur qui a rétabli et qui anime un système polyculture élevage. Et ça c'est Denis Armand sur sa mamère, qui a donc conçu un système où effectivement il y a un troupeau de brebis qui nettoie les vignes, qui engraisse. Par son fumier, des céréales pour faire une complémentation éventuellement, un parcours de garrigue, et puis du vin bien sûr, puisque c'est fondamentalement un viticulteur. Mais je vois très bien moi des possibilités de projet un petit peu dans cet axe, c'est-à-dire qualité, circuit court et polyculture élevage. Voilà, il y a quelque chose à chercher dans cette direction-là, en ajoutant par exemple de l'apiculture, faire du miel, qui est aussi le miel de garrigue, c'est quand même une production assez exceptionnelle. Voilà, donc je pense qu'il y a des atouts très très forts, quoi. Après, il faut les hommes, mais les hommes, je pense que dans les nouvelles générations, il y a des gens qui sont extrêmement motivés, qui sont attirés par ce genre de vie un peu comme ça, en plein air, dans la nature. Voilà, je ne suis pas forcément pessimiste.
Néanmoins,
c'est la question que tu me poses. Je sais pas
néanmoins, il y a quelques freins quand même assez importants aujourd'hui. L'aspect strictement économique, hein, on parle de circuit court, c'est pas encore effectif là-dessus. Comment on vit de cette activité-là, mais aussi des problèmes logistiques, d'organisation. On parle souvent, par exemple, de la problématique de la bergerie. La bergerie, comment, quand on se réinstalle, où est-ce qu'on met la bergerie? Est-ce qu'on utilise d'anciennes bergeries? Est-ce qu'on en reconstruit une nouvelle? Mais où, dans le centre d'un village où aujourd'hui il y a tout un tas de lotissements tout autour, comment on voit par exemple cette question de la bergerie est quelque chose qui revient souvent?
C'est vrai que c'est une question assez fondamentale et effectivement des restes de bergerie, des ruines de bergerie, il y en a un petit peu partout, ça montre justement qu'à l'époque dont on parlait tout à l'heure, pratiquement il y en avait dans toutes les communes de la zone. Et comme dit mon ami Émile Bonneau, c'était à la fois pour la protection la nuit, pour la garde, et aussi pour protéger certainement des loups qui étaient à ce moment-là, qui existaient dans la zone. Donc des bergeries, il y a toute une tradition de la bergerie. Malheureusement, bon, elles ont été un peu dépouillées, donc il ne reste que des ruines. Mais pourquoi pas en reconstruire certaines? Moi, je pense qu'il y a des projets locaux qui pourraient se mettre en place. Parce qu'il faut bien voir qu'actuellement, moi, dans ce que je vois autour de moi, il y a des communes qui sont partantes pour relancer des expériences locales d'élevage. Donc dans la mesure où on a l'appui d'une commune ou d'un conseil municipal ou d'un maire un petit peu dynamique, je pense qu'il y a des choses à faire. Il faut réfléchir. Effectivement, c'est difficile de dire à un jeune de tout amener, c'est-à-dire de tout apporter, qu'on soit à la bergerie, amener le troupeau. Et malheureusement, en général, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Donc il faut compter sur des structures existantes. Il faut présenter les projets et il faut les faire accepter. Et dans cette mesure-là, il y a des expériences qui sont possibles. J'en connais. En tout cas.
Donc du coup, on voit qu'il y a la question de plutôt, on va dire, du territoire, c'est-à-dire l'intérêt du territoire à avoir un troupeau, que ça soit une commune, que ça soit au niveau naturaliste, au niveau de la lutte contre les incendies, donc un intérêt pour le retour du troupeau, mais aussi, pour revenir à ce qu'on discutait tout à l'heure, peut-être un intérêt aussi à reconstruire un système en garrigue. Et effectivement, on voit naître dans cette mouvance de production de qualité, notamment dans le vignoble de qualité, qui quand même fonctionne bien ici. Hein. On a l'exemple du Puy-de-Saint-Loup, qui est quand même un très très bel exemple. Et puis le vin bio, par exemple, qui est quand même quelque chose qui est en pleine progression. On voit un retour d'intérêt à avoir un troupeau à proximité qui peut revenir aussi dans les vignes.
Tout à fait. L'histoire de la production du vin bio est extrêmement intéressante puisque tu la poses, mais on s'aperçoit qu'il y a des tentatives actuelles dans la région, par exemple, de Vacquières, où certains viticulteurs sont intéressés. Et puis, Denis Armand, dont je parlais tout à l'heure, à Saint-Mamère, le fait déjà depuis pas mal d'années, où on propose justement le passage de troupeaux dans les rangs de vignes pour éviter justement l'utilisation d'herbicides et de produits toxiques. Donc là, vous voyez, il y a quand même des... Il y a ça, il y a aussi le fait qu'on peut concevoir des choses intéressantes dans les communes, comme par exemple celle d'Aigues-Vives, où la municipalité, sur plusieurs années, a constitué un stock de foncier communal. Et ayant ce stock de foncier communal et ne sachant pas trop comment l'entretenir, elle préconise le retour d'un troupeau pour l'entretien de ces parcelles communales. Donc ça, c'est lié un petit peu à la politique après locale des communes. Donc, ce que je voudrais dire en conclusion, parce que c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup, c'est que dans les années 70-75, à l'époque des babacools, comme on disait, comme on les appelait, ces gens, ils sont venus des villes, etc., dans un esprit un peu idéaliste. Ils sont venus dans les Cévennes. Effectivement, il en est resté peut-être 2 ou 3% de tous ceux qui sont arrivés à cette époque-là. Mais les 2 ou 3% qui sont restés ont sauvé l'élevage des Cévennes. C'est-à-dire que, je vais jusque-là, c'est-à-dire que, effectivement, c'est des gens qui ont maintenant 50, 60, même sans doute un peu plus, et qui ont réussi à rester, à développer, par exemple, l'élevage des chèvres, la production de pélardons, la culture de l'oignon, etc., etc., qui fait que maintenant, il y a des jeunes gens originaires des Cévennes qui reprennent le flambeau et qui réaniment certaines zones agricoles. Et pourtant, franchement, dans les années 70, on se demandait un peu ce qu'allaient devenir les Cévennes. Les Cévennes, elles ont été sauvées par ces expériences de gens un peu illuminés, un peu venus d'ailleurs, etc. Pas que, bien sûr, heureusement qu'il y avait encore des Cévenols présents sur place, mais ça a quand même donné une espèce de dynamique qui a été reprise et qui existe toujours. C'est-à-dire que maintenant, il y a des élevages très performants dans les Cévennes, des élevages de chèvres, des élevages de brebis, et qui maintiennent ce massif Cévenol en vie et qui évite justement l'envahissement comme on le constate ici. Donc je ne suis pas totalement pessimiste. J'espère qu'on arrivera à des choses intéressantes.
Donc effectivement, imaginer un retour pastoral dans nos garrigues est quelque chose qui va nous prendre probablement pas mal de temps et d'énergie. Mais aujourd'hui, on voit plusieurs facteurs qui nous poussent à dire « faisons quelque chose, allons-y ». Et c'est sur cette note un peu optimiste qu'on va se quitter. Merci beaucoup Gérard, et puis
merci Manu.
Merci aux auditeurs et à très bientôt.
Si desapareció, en mí aparecerá. Creyeron que murió, pero renacerá. Llovió, paró, llovió, y un chico adivinó. Oímos una voz y desde un tango, rumor de pañuelo blanco. Buenas.
Cinco años y no sé si...